La Voix de l'élevage, le podcast du SPAS sur l'actualité agricole avec Eureden.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Voix de l'élevage, spécialement consacré à la crise agricole actuelle qui a déclenché une mobilisation générale en ce début d'année dans toutes les filières et qui reste en attente de nombreuses réponses, tant au niveau français qu'européen. Alors pour décrypter ces enjeux et les perspectives possibles pour une sortie de crise, nous recevons Arnaud Carpon, rédacteur en chef de terrenet.fr. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler brièvement les principaux déclencheurs de ce malaise agricole ? Quels ont-ils été ?
Alors, pour rappel, la crise s'est un petit peu déclenchée dès l'automne dernier, quand le ministère de l'Économie, dans son projet de loi de finances 2024, a souhaité mettre fin à la détaxation du GNR. Quels ont été les déclencheurs ? Ils sont très nombreux et oui, très divers, en fait, selon les filières, qu'on soit céréalier, éleveur de volailles ou éleveur bovin-viande. Par contre, le GNR, ça concerne un petit peu tout le monde, à plus ou moins grosse dose, je dirais. Et c'est un petit peu ça qui a mis le feu aux poudres et qui a déclenché un peu la colère. Alors, ça a été après coup, finalement, parce que cette décision-là, elle a été prise dans le cadre du projet de loi de finances qui a été discuté fin septembre, début octobre. C'est à l'époque où le syndicalisme majoritaire a commencé, souvenez-vous, à retourner les panneaux des entrées et sorties de villages pour commencer à exprimer un ras-le-bol, j'ai envie de dire, général. C'est pour ça que c'est assez difficile de citer un ou deux, trois facteurs déclencheurs de cette crise. Mais en tout cas, le GNR, ouais, c'est ce qui a, la petite goutte d'eau, oui.
Goutte d'eau, suite à une accumulation de différentes revendications qui étaient jusqu'alors peut-être encore silencieuses, on va dire, et du coup tout est apparu au grand jour, d'où les barrages et les blocages. Et les annonces politiques faites sur les barrages, et puis au moment du salon de l'agriculture qui s'est terminé, sont-elles suffisantes, à votre avis, Arnaud Carpon, pour endiguer cette crise en profondeur ? Parce qu'elle est profonde, cette crise, en fait.
Alors, il y avait plusieurs niveaux d'attente et il y a eu plusieurs niveaux de réponse. Alors déjà, le gouvernement a répondu à la première, à la goutte d'eau dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de revenir sur la fin de cette détaxation du GNR. Ça, c'était le premier point. Et c'est en plus le point qui va être le plus tangible à très court terme pour les exploitants agricoles, quelle que soit leur production. Mais après, il y a tout un tas de mesures à moyen et long terme qu'il faut apporter à des revendications de moyen et long terme. Ce qu'il y a de plus long terme, c'est ce qu'a expliqué Emmanuel Macron, qui souhaite faire reconnaître l'agriculture comme intérêt général majeur de la nation française. C'est pas rien, parce que ça permettrait in fine, si ça se décline bien dans les processus législatifs et la définition des lois futures, de mettre l'agriculture et l'intérêt général de l'agriculture au même niveau que la protection de l'environnement. Et ça répondrait d'ailleurs en partie à une revendication des agriculteurs, c'est d'arrêter d'être matraqués, entre guillemets, je reprends leur terme, par des normes toujours plus nombreuses pour les bienfaits de l'environnement, et c'est louable, mais qui viennent pénaliser leur quotidien d'agriculteur. Donc ça, c'est sur le long terme. Et en attendant, il y a du court terme et moyen terme qui est essentiel, c'est la question des prix et du revenu, en fait.
Alors justement, la loi Egalim est revenue sur le tapis, si j'ose dire, à nouveau. On rappelle que c'est donc la rémunération au juste prix par les distributeurs. Et cette loi qui n'est pas respectée, en tout cas pas par tout le monde, des contrôles supplémentaires ont été annoncés. Est-ce que ça peut suffire à régler la question du prix d'achat du lait, par exemple ? Est-ce que les prix planchers vont enfin être respectés ?
Alors, les prix planchers, j'ai envie de dire, c'est une formule un peu fourre-tout qui ne veut pas dire grand-chose, qui doit se traduire dans des textes de loi. Et l'objectif de prix plancher qui couvrirait, parce que c'est bien ça le débat, qui couvrirait les coûts de production des éleveurs, des agriculteurs, la profession avec l'État y travaille depuis plus de 5 ans, en fait. En octobre 2017, Emmanuel Macron a fait un grand discours à Rungis pour expliquer qu'il fallait remettre en marche avant la construction des prix pour que, enfin, les coûts de production d'un éleveur laitier, par exemple, soient pleinement pris en compte dans son prix de vente. C'est ça la question du prix plancher. Et donc cette formule qu'a ressorti Emmanuel Macron à l'ouverture de ce salon de l'agriculture, elle est en soi pas forcément possible d'un point de vue économique parce que l'agriculture est un environnement ouvert, on n'est pas enfermé dans nos frontières. Mais du coup, je pense que c'est la volonté d'aller plus loin sur Egalim, c'est ce que vous disiez dans votre question, parce que les trois versions des lois Egalim ne sont pas suffisamment respectées, il faut plus de contrôle et il faut surtout que les indicateurs qui sont pris pour couvrir les coûts de production soient clairement appliqués dans les contrats, en fait. C'est ça qui se passe. D'où le projet de faire évoluer encore dans une quatrième version les lois Egalim pour que ce soit plus strict dans la définition de la loi et que ça soit mieux appliqué sur l'ensemble de la chaîne. Vous parlez des distributeurs, il ne faut pas seulement parler des distributeurs d'ailleurs, il faut aussi parler des industriels, parce que le coût de production d'un éleveur doit d'abord être couvert dans le contrat qui le lie avec l'industriel.
Alors il y a aussi la levée des restrictions sur l'utilisation des pesticides hein, qui a été annoncée. Est-ce tenable selon vous d'un point de vue écologique et surtout du point de vue de l'opinion qui jusqu'à présent soutient le mouvement ?
Il faut quand même que l'opinion publique comprenne qu'en Europe et dans le monde, la France est la mieux disante sur le plan des traitements phytosanitaires. La France surtranspose certaines réglementations européennes sur ce sujet, qui fait que certains produits utilisés dans d'autres pays européens ne le sont pas en France. Donc pour que ça soit accepté, il faut que l'opinion publique ait ça en tête, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est bien ça le motif de revendication de la part du monde agricole. Le monde agricole français en a un peu marre d'être toujours les mieux disants parce que c'est louable d'avoir des bandes enherbées de plus en plus larges aux abords des habitations sur lesquelles on ne peut plus étendre. Mais tout ça, ça a un coût. L'agriculteur, il paye toujours son fermage sur la terre qu'il exploite et il ne peut pas l'exploiter comme son champ qu'il a en plein milieu de la plaine. Donc c'est ça qui agace et qui pénalise économiquement les agriculteurs français. En tout cas, c'est un motif de perte de compétitivité des agriculteurs en général par rapport à leurs voisins européens et leurs voisins des autres pays hors Europe.
Alors l'Europe, justement, parlons-en, il existe des disparités dans les différentes normes qui régissent le métier dans l'Union européenne, parfois moins strictes dans certains pays sur le plan phytosanitaire, mais aussi sur le plan énergétique, ce qui peut provoquer un coût de l'énergie inégal entre certains pays. Il n'y a pas de bouclier commun hein, sur ce plan, on le rappelle, ou pas encore. Les initiatives sont prises localement, donc au sein des pays. Et finalement, la France se retrouve plus chère. Alors, est-ce que c'est une concurrence déloyale pour les éleveurs français qui ont, eux, particulièrement besoin de beaucoup d'énergie pour leurs élevages ?
Ah ben c'est clair. Et ça, c'est très compliqué à régler comme difficulté. Mais effectivement, des éleveurs vont se retrouver pénalisés économiquement et donc ne seront pas forcément compétitifs parce que leur coût de l'énergie pour chauffer leurs bâtiments, pour abriter leurs animaux, va coûter plus cher qu'en Europe de l'Est ou ailleurs. Et donc, ça, c'est clairement un motif de perte de compétitivité qu'il faut travailler, je pense, parce que si on veut harmoniser un petit peu l'ensemble des règles européennes, eh bien, il faut aussi travailler ces questions de compétitivité sur l'énergie, et pas seulement sur l'énergie, on peut aussi parler du coût du travail, qui est extrêmement pénalisant aujourd'hui pour tous les agriculteurs qui emploient des salariés pour gérer leurs élevages, enfin leurs ateliers de grande culture.
Mais, oui, puis si on veut conserver une bonne transmission des exploitations également, il faut pouvoir embaucher.
Oui, tout à fait.
Et payer
les salaires. Et payer, voilà, c'est ça. Ouais.
Alors, le durcissement des normes européennes, par exemple, c'est un autre sujet pour le bien-être animal, alors que la France, là aussi, est plutôt en haut du classement. Va-t-il contraindre, selon vous, Arnaud Carpon, à nouveau les éleveurs qui ont déjà investi dans des infrastructures, d'investir encore et peut-être même lourdement, et du coup les pénaliser aussi ?
Ben, c'est une menace, mais qui est peut-être moins franco-française, en fait, parce que les règles en matière de bien-être animal, par exemple, tout ce qui relève du bien-être des animaux dans un bâtiment, il y a encore du boulot, mais ils sont en train de s'harmoniser au sein même de l'Europe. Donc, c'est pas tant une source de concurrence déloyale au sein de l'Europe. Après, la question du bien-être, je pense qu'elle est importante. Les agriculteurs, et je pense que les éleveurs, ils travaillent beaucoup, en concertation avec des organisations, des ONG qu'on peut appeler welfaristes, c'est-à-dire qui accompagnent et qui travaillent avec le monde agricole pour essayer de pousser à améliorer encore les conditions de bien-être animal. Mais oui, effectivement, pour répondre à votre question, ça va avoir un coût si la marche d'après est un peu trop haute et si des investissements sont toujours pas financés, des investissements passés
précédents,
toujours pas financés, ça va aussi contribuer à la dégradation des comptes d'exploitation, ça c'est sûr.
En conclusion, Arnaud Carpon, est-ce qu'on peut dire que la France est égalitaire au niveau européen ou pas ? Parce que vous pensez que la France est compétitive, quoi, par rapport à tous ses voisins européens sur le plan agricole?
Ah ben sur le plan, non, sur le plan agricole, alors il y a des situations très diverses, mais il y a par exemple des produits phytosanitaires qui ne sont plus utilisables en France et qui le sont encore par dérogation dans certains pays européens. Donc ça, c'est une source de distorsion intra-européenne pour gérer des cultures. Vous avez des règles alors de bien-être animal et par exemple de gestion et d'usage des antibiotiques. C'est en train de s'harmoniser au sein même de l'Europe, donc c'est sans doute un sujet un peu moins source d'inégalité, en tout cas dans les secteurs élevage. La plus grosse source d'inégalité, en fait, c'est sur le volet économique en tant que tel, sur le prix de l'énergie, sur les charges et en particulier sur les charges salariales. Le coût du travail en France est nettement plus important qu'ailleurs en Europe et notamment par rapport aux pays de l'Est. Et du coup, c'est ça qui pèse énormément. Pour produire un kilo de viande, juste pour résumer, en France, avec des salariés, une main-d'œuvre, ça coûte beaucoup plus cher qu'en Roumanie ou en Pologne. Donc, c'est plus des aspects très généraux qui ne s'appliquent pas seulement à l'agriculture, qui pénalisent la compétitivité des exploitations françaises. Donc, c'est un travail de longue haleine.
Il y a encore du chemin à parcourir. Merci beaucoup à Arnaud Carpon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de terre-net.fr, pour être précis. Et ben, je vous dis à bientôt dans La Voix de l'élevage. Merci encore.
Merci à vous.
Et à la une de notre e-article à lire ce mois-ci sur le site de Ouest France, un focus sur la filière avicole et son volet économique. En effet, celle-ci est très concurrencée au niveau international. En 2023, 50% des poulets consommés en France étaient importés. Alors, quelles sont les attentes de cette filière? Quel est le savoir-faire français? Réponse dans notre article à retrouver sur le site de Ouest France à la page Ouest France Communication. Vous retrouvez cet épisode sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest France. Rendez-vous le mois prochain.
La Voix de l'élevage, le podcast du Space sur l'actualité agricole avec Eurédem.